Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans Une Heure en Série, saison 2, épisode 2, Une Heure en Série, l'émission qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité des séries télé, toutes chaînes confondues, et qui répond à la question existentielle, celle qui a mené tant de couples au bord de la rupture. Que regarde-t-on ce soir à la télé? Et ce soir d'ailleurs, nous parlerons tueurs en série et profilage avec le tueur de l'ombre sur Arte, colonialisme sanglant et guerre des territoires avec Mark Skins sur National Geographic, vengeance et manipulation génétique avec Biohackers sur Netflix.
Une heure en série, Xavier Le Herpeur.
Et avec nous ce soir justement les très génétiquement manipulés. Non, ces êtres humains ne sont pas nés normalement comme vous et moi. Christine Haas, bonjour Christine.
Bonsoir Xavier.
Charlotte Lipinska, Télématin, toujours avec votre petit camarade qui est juste à vos côtés d'ailleurs, Benoît Lagan, bonjour.
Bonjour.
Et Benoît Lagan, donc le 5-7 de Mathilde Menos.
Bonsoir à tous et à toutes.
Bonsoir, oui absolument. Alors, côté courrier, j'en ai gardé deux, un qui nous est favorable, l'autre qui l'est un petit peu moins. Oriane nous dit super contente de vous retrouver. Un petit mot pour partager avec vous mes plaisirs de l'été. Elle a regardé la Total Battlestar Galactica sur Prime, toujours un plaisir. Oui, c'est pas nouveau, mais effectivement, c'est toujours un plaisir. Et elle est tombée amoureuse de la série Giri Haji sur Netflix, une série nippo-british dont elle a apprécié les images superbes et le rythme haletant. Oui, c'est vrai que c'est une très très bonne série. Elle nous recommande également les 4 premiers épisodes. Elle n'a pas été plus loin de Ted Lasso sur la chaîne Apple TV. Quelqu'un l'a vu, Ted Lasso?
Pas encore, mais ça donne envie hein, sur ce footballeur de football américain qui se retrouve à diriger une équipe de soccer, quoi.
C'est ça, de football anglais, évidemment, il y a un gap culturel entre les deux. Et alors, Sylvain n'est pas très très content, puisqu'il remarque que dans mon introduction la semaine dernière à Lovecraft Country, j'ai présenté Lovecraft comme un auteur de SF. C'est totalement faux, me dit-il.
Flagellez-vous.
Ah oui, moi ça je vais le faire toujours avec énormément de plaisir. Lovecraft écrivait dans le genre fantastique pour ne pas dire carrément que c'était un écrivain d'horreur. La SF n'était pas encore un genre vraiment développé à l'époque où Lovecraft écrivait. Ben voilà, c'est corrigé grâce à la culture et à l'érudition de Sylvain. N'hésitez jamais à me reprendre ou à reprendre les autres. Il n'y a pas de raison que je sois le seul à payer, bien évidemment. Non, je suis lâche quand même, hein. Naturellement je suis un garçon. Donc on va commencer tout de suite par le premier débat de la soirée, si vous le voulez bien. C'est le tueur de l'ombre sur Arte. Ça commence jeudi 10 septembre à 20h55. C'est une série danoise de 8 épisodes de 45 minutes. Une jeune fille rentre chez elle la nuit venue. Oui, c'est mon côté Pierre Belmar, là.
D'accord.
Voilà. Je m'y essaye, en tout cas. Une nuit pluvieuse, comme il se doit, à peine percée par l'éclairage glauque de quelques lampadaires éparses. Elle est la seule à sortir à cette heure-là, quand même. Elle est suivie à courte distance par une voiture dont on distingue à peine la silhouette du conducteur. La blonde adolescente s'engouffre dans un tunnel sordide. Mais pourquoi elle va dans le tunnel sordide, hein?
Voilà. Surtout quand il fait nuit.
A-t-on très envie de lui dire? On ne la retrouvera évidemment pas. Une disparition similaire à une précédente survenue 10 ans plus tôt, supputant qu'il a affaire un tueur en série dont les victimes ne sont jamais retrouvées, le très obstiné, un peu froid, mais assez sexy en tout cas pour moi. Inspecteur Ian Mikkelsen mène l'enquête, secondé par une psychologue qui va très vite confirmer ses soupçons.
Qu'est-ce que t'as trouvé ?
Emma a laissé cette boucle dorée exprès.
Qu'est-ce qui te dit qu'elle n'est pas simplement tombée ?
Elle a été trouvée avec le fermoir. Donc Emma a retiré sa boucle d'oreille, a remis le fermoir et l'a caché sous le tapis. C'était intentionnel.
Louise, on cherche quel genre d'agresseur, selon toi?
Il devait avoir entre 25 et 35 ans quand il a tué Natacha, donc maintenant il doit avoir entre 35 et 45. Il a sans doute des antécédents d'agression sexuelle à son actif. Il a pu commettre des viols ou des attentats à la pudeur, ce genre de choses.
Mais Natacha, c'était il y a 10 ans. Quelque chose l'a poussée à recommencer.
Oui, un élément déclencheur, c'est certain.
Que savons-nous sur elle?
C'était une enfant unique. Quelques années avant d'être assassinée, elle avait fait une dépression assez grave. Mais selon ses parents, elle s'en était bien sortie. Elle était heureuse au lycée et, à part une amie d'enfance, tout son cercle d'amis venait du lycée.
C'est peut-être là qu'elle l'a rencontrée.
Un polar sombre signé Ina Brun, auteur prolixe de la télévision danoise, ayant collaboré entre autres à la série Occupied. Le tueur de l'ombre est réalisé par Carsten Millerup et interprété par Kenneth M. Christensen. Et là, tout aussi sexy que son collègue masculin, Nathalie Madueno. Une deuxième saison est prévue pour 2021. Alors, vous avez été sensible au charme de la comédienne. Avez-vous été néanmoins sensible à la série, cher Benoît?
Bien, dans le genre de la série danoise, à l'enquête sombre, et où pour trouver un personnage qui fait un sourire, faut aller chercher quand même, hein, parce que c'est vrai que notamment le fameux Yann Mikkelsen tire la gueule quand même pendant les 8 épisodes
de
la série.
C'est pas Candice Renoir, voilà. On l'a remarqué.
Dans le genre de la série de Profiler, hein, qui est un personnage quand même souvent utilisé avec plus ou moins de finesse dans l'univers des séries, là je trouve que c'est plutôt malin, parce que là la Profiler n'est ni une super héroïne, ni une psychanalyste de tueur en série complètement barge, non, la série est plutôt réussie à cet endroit-là. Le rythme est haletant, à défaut de ne pas nous surprendre en réalité, parce que finalement on est dans un petit confort de série danoise assez classique, de polar psychologique, plutôt pas mal, avec quand même... Moi, je trouve quelque chose qui est plutôt bien, c'est-à-dire que dès le départ, en gros, on sait qui a tué. Et parce que c'est pas là l'enjeu.
Oui, deuxième épisode,
voilà.
Troisième.
L'enjeu, il est plutôt dans la psychologie, la dimension psychologique du thriller. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, les scènes de violence sont crues, je trouve. Alors, et je me suis posé la question, et encore aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'elles sont vraiment utiles, finalement? Est-ce qu'elles sont nécessaires de nous montrer, notamment, ces scènes? Je me pose encore la question. Je sais pas si vous avez la réponse autour de la table.
On a une petite idée, quand
voilà.
même.
Après, je trouve qu'il y a de la dimension psychologique, parce qu'il y a un discours dans la série autour de la violence faite aux femmes, avec notamment l'apparition de ces groupes de parole, qui du coup moi je trouve sont pas assez exploités ou du moins s'imbriquent bizarrement dans le polar. Voilà, malgré ces réserves, moi j'ai quand même suivi tous les épisodes avec grand intérêt, j'avais envie de savoir où tout ça nous menait, et avec un final plutôt bluffant au final, bref, moi j'ai trouvé plutôt agréable à suivre, voilà, avec toutes ces réserves de classicisme, on va dire, de la série danoise, du polar danois maintenant.
Elle vous a écouté comme nous avec beaucoup d'intérêt, mais néanmoins elle a fait une petite moue dubitative quand vous avez parlé du final bluffant. Je vais donc céder la parole à Charlotte Lipinska à propos du tueur de Londres.
Bah oui, parce que Benoît trouve bluffant, moi je trouve totalement grotesque ce final. Et bizarrement, je trouve que la série démarre mieux qu'elle ne se termine, parce que c'est vrai qu'on connaît...
C'est un peu comme le supplice de l'empalement.
Ça, oui, c'est ça.
Mais ça finit mal.
Mais on connaît l'identité donc du tueur dès la fin du premier épisode. Et donc il y a toujours ce problème quand le spectateur a une longueur d'avance sur les enquêteurs, à savoir donc qu'est-ce qui va nous tenir dans la tension du déroulement de l'histoire. Et en fait, nous, en tant que spectateurs, bah, finalement, qu'est-ce qu'on va gratter? Ça va être quelques petites infos de ci, de là, sur l'enfance, on va dire, ou la psychologie du tueur, mais qui sont en fait extrêmement explicatifs. C'est-à-dire, ce sont des flashbacks illustratifs de choses qu'on pressent tout de suite, qu'on connaît, et donc en gros on n'a pas grand chose à manger, nous, en tant que spectateurs, à part se demander, bon, combien de temps ils vont mettre pour le trouver finalement. Alors après, c'est vrai que Benoît, tu soulignais on va dire le message ou la thématique qui traverse toute la série sur les violences faites aux femmes, bah évidemment on peut que louer cette volonté, néanmoins c'est pas du tout fluide dans la narration, ces groupes de paroles de femmes, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, et même si la série, oui, elle est plutôt bien fichue, elle est relativement haletante. Et elle a quand même pour elle, je trouve, de, pour une fois, prendre du temps pour véritablement personnifier des victimes. C'est-à-dire que les femmes victimes ne sont pas que des cadavres ou que des faire-valoir du psychopathe. Elles existent, elles ont une personnalité, on prend le temps un petit peu de les connaître. Et puis alors après, bon, il y a quand même... une actrice, alors je vais essayer de ne pas écorcher son nom, donc c'est foutu d'avance. Hein,
j'ai
je
dû
vous
le
dis.
Faire, donc allez-y
tranquillement. Signe Egholm Olsen, qui est vraiment flippante et vraiment vraiment très intéressante. Pour le reste, c'est assez classique, avec gros clin d'œil à Festen, parce que quand même, un repas de famille, quand on fait ting 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 sur un verre, ça, on peut plus utiliser ça, c'est terminé. Bon, voilà, moi je trouve que ça se laisse voir, mais enfin, ça restera pas dans les annales du polar danois.
C'est donc la parole à la psychopathe de l'équipe.
Oui, j'ai nommé Christine. Merci, c'est vrai, parce que j'ai trouvé là une camarade. C'est vrai que vous faisiez référence à Steen, le personnage de Steen, qui est un personnage complètement incroyable, tout à fait unique, hein, dans l'histoire de la série, irrationnelle, déconcertante, imprévisible.
Peut-être de contextualiser pour les auditeurs qui n'ont pas encore vu la série.
Ah bah, pas totalement.
On va pas totalement. On va juste dire qu'il y a un personnage féminin qui est lié au tueur et qui nous permet d'explorer justement la porosité entre le statut de bourreau et de victime. Oui. Voilà, on va pas aller plus loin et c'est un personnage qui est tout à fait effroyable parce que ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'elle est véritablement coupée en deux, à part égale. On passe autant de temps avec le tueur qu'avec les enquêteurs et on dépiote autant les méthodes d'enquête que les méthodes malsaines entre le tueur et ses partenaires. C'est donc une série qui, pour moi, fait extrêmement peur. Elle est de moments extrêmement désagréables à regarder. C'est l'observation la plus crue de la monstruosité. Celle qui naît dans la douleur, qui subsiste véritablement dans la laideur et se nourrit de la cruauté. Donc, tous les personnages, que ce soit tueur, victime, flic, sont marqués à jamais par l'expression de cette monstruosité. On laisse rien à l'imagination, on remonte le long de la chaîne en permanence jusqu'aux scènes les plus malaisantes, qui mettent en scène les parents bourreaux, puis ensuite les enfants qui eux-mêmes vont devenir des bourreaux, puis ensuite les victimes qui, elles, si elles s'en remettent, et elles ont peu de chances de s'en remettre...
mal barrées.
Oui, elles sont plutôt mal barrées. Et puis ensuite, même les flics, qui sont hantés par la culpabilité, incapables de surmonter leurs échecs, dont la santé mentale est elle-même aussi parfois menacée. Donc on est véritablement dans une série qui étudie la laideur, les tréfonds les plus sombres de l'âme, et moi par moments j'étouffais carrément. Alors c'est vrai que c'est hypnotique, c'est engagé, c'est profond, mais c'est aussi terriblement dérangeant dans la manière d'explorer de manière clinique, précise et sans rien laisser à l'imagination. Les relations entre le tueur et sa complice sont effroyables. Il n'y a pas de hors-champ. Les scènes de viol sont quand même parmi les pires que j'ai jamais vues. Et il faut quand même prévenir le public. Ça peut être assez effrayant.
Merci beaucoup à vous trois. C'était donc à propos du Tueur de l'ombre sur Arte qui débutera le jeudi 10 septembre à 20h55. Agnès Obel, Cameras Rolling, un titre sur lequel s'ouvre Myopia, le quatrième album de la chanteuse danoise qui vit désormais à Berlin. On retrouve dans ce single, ce titre, cette chanson, la plume vertigineuse, introspective, sereine et inquiète de la chanteuse, ainsi que son travail sophistiqué sur la partition sonore. Elle sera en concert tout au long du début 2021, tournée qui l'amènera à Londres, New York, Vancouver, mais que ses fans français se rassurent. Elle sera chez nous dès le mois de mai, le 18 mai à la scène musicale et le 1er juin à Nantes.
France Inter. série.
Et c'est le temps où je me permets de glisser un petit conseil littéraire en écho à la série dont nous venons de parler, Le Tueur de l'Ombre. Et je vous recommande la découverte du goût du rouge à lèvres de ma mère, paru aux éditions du Masque et signé Gabriel Massa, un polar exempt qui se déroule dans une Amérique des bas-fonds et pourtant signé par une Française de 29 ans qui naît dans la vie. Tout commence lorsque Cyrus, adolescent vivant seul avec sa mère, découvre le jour même où il ose en cachette fumer sa première cigarette, le cadavre de l'autrice de ses jours baignant dans son sang. 28 coups de couteau ont brutalement interrompu le cours de l'existence de cette femme de tête, proxénète respectée de San Francisco. 15 ans plus tard, Cyrus a déménagé à l'autre bout du pays. Il vit désormais de trafic en tout genre, en dépit d'une maladie dégénérative qui lui a fait définitivement perdre la vue. La découverte d'un corps supplicié va le ramener dans sa ville natale à la poursuite de l'assassin de sa mère. Un coup bas du hasard qui va le forcer à affronter les démons de son passé, passé qu'il avait choisi d'oublier, ou du moins d'essayer d'oublier. Un paradigme de roman noir, made in USA, et pourtant écrit à Toulouse. La frontière entre hommage et pastiche est souvent ténue et beaucoup d'écrivains l'ont appris à leur dépend. Ce n'est pas le cas de Gabriel Massa, qui signe un roman référencé, gourmand de sa connaissance du genre, mais qui conduit sans faillir une ligne narrative aussi efficace que subtile. Un excellent polar pur et dur, affûté et tranchant, mais qui est aussi le parcours d'un homme face à lui-même, poussé par un destin machiavélique à se redécouvrir et solder les comptes d'une adolescence sacrifiée. Méfiez-vous, c'est terriblement addictif. Le goût du rouge à lèvres de ma mère, aux éditions du Masque, est signé donc par la jeune Gabriel Massa. Et c'est l'heure du deuxième débat. Nous allons évoquer à présent Barkskins, une série canadienne de 8 épisodes d'une heure, diffusée sur National Geographic à partir de ce soir, donc du 5 septembre. Nous sommes à la fin du XVIIe siècle, à Wabik,
c'est ça,
village situé en plein cœur de la très sauvage Nouvelle-France, contrée hostile qui deviendra le Québec, mais qui pour l'heure est le théâtre de l'affrontement sanglant et impitoyable entre Français, Anglais et Iroquois. Natifs du lieu ou colonisateurs hégémoniques, tous revendiquent le droit à cette terre et n'hésite pas à sortir les armes pour défendre ce qu'ils considèrent comme leur bon droit. Tout commence d'ailleurs par le massacre d'un campement français. Seule une fillette en réchappe, murée dans le mutisme de son traumatisme. Les Iroquois sont désignés comme les coupables, mais qu'en est-il vraiment? Quelques jours plus tard débarquent à Wabik quelques renégats français envoyés sur place pour servir d'esclaves à tout faire, des jeunes femmes envoyées par le roi Louis pour servir d'épouses soumises aux colons, ainsi que deux hommes de la Hudson Bay Company, l'un anglais, le second indien, qui enquêtent sur la mystérieuse disparition d'un de leurs collègues.
Can you hear it? God in the whirlwind. He can feel us trampling his kingdom.
We were told of the recent tragedy west of town.
An English agent went missing.
I'm here to discover his fate.
Who was it who tasked you with this mission?
The name doesn't matter.
The name matters.
Une fresque historique et politique sur fond de guerre territoriale imaginée par Annie Proulx, écrivain américano-québécoise, autrice de la nouvelle Brokeback Mountain, que tout le monde connaît bien évidemment, et qui est également productrice de la série. Barkskins est écrite et produite par la scénariste Elwood Wright, connue pour avoir signé de nombreux épisodes de Cold Case et la version américaine de The Killing. Au casting, on retrouve David Twellis, vu dans Fargo et la saga Harry Potter, Marcia Gay Harden, qu'on a vu récemment dans The Morning Show et dans Damages, Dan McLaren, Clarnon, Fargo et Westworld, et également David Wilmot qu'on a vu dans The Alienist. Bref, sur le papier, c'est très beau, c'est une promesse effectivement de polar, de fresque historique, mais qu'en est-il réellement, chère Christine ?
Ben moi, je dois dire que j'ai beaucoup aimé. C'est une œuvre immersive de ce qu'on appelle la cli-fi, c'est-à-dire la fiction climatique. Quand la civilisation avance, la forêt recule, nous dit Annie Proulx, qui est une écologiste engagée. Et la série s'imprègne de couleurs, de mythes, des côtés obscurs des lieux, de manière très authentique, pour nous révéler un monde finalement assez peu exploré par le cinéma et la série. Et alors, il y a de la violence physique. Wabik est une ville frontière entre la civilisation et un monde sauvage, où on risque à tout moment, il faut le dire, de se faire poignarder, brûler, torturer, se prendre une flèche dans le dos, violer, enfin, tout ça au mieux.
Ouvrir le crâne à coups de machette.
Voilà.
C'est bien tenu que cela.
Et non. Mais il y a aussi une violence qui est associée à l'oppression systématique. On voit comment les autorités politiques, économiques, usent de leur influence pour prendre le pouvoir. Il est toujours question, en arrière-plan de cette histoire, de quête de profit au détriment de la vie humaine. Et la série capture un moment d'histoire, plus de 300 ans avant notre monde, qui est le résultat de tous ces choix, du moment où l'homme va commencer à abîmer la nature, à piller les richesses naturelles, ce au nom du progrès. Alors, on a un rythme qui est celui du soap opéra, avec ses alliances, ses trahisons. Il faut quand même prendre le temps de découvrir la région, de comprendre les intérêts convergents, divergents de chacun des personnages. On a de la boue, du sang, de la corruption, de la trahison, de la sauvagerie, mais un peu moins d'humour que dans Deadwood. En revanche, les personnages féminins me semblent assez intéressants dans le sens où, l'une après l'autre, elles vont découvrir que leur futur s'écrit en dehors du parcours conventionnel qui leur est proposé, à savoir le mariage, la domesticité. Il va falloir qu'elles s'imposent seules dans un monde d'hommes. C'est une série qui s'achève sur un suspense, effectivement, qui va s'ouvrir sur une seconde saison, on l'espère en tout cas, parce que le roman de Annie Proulx fait 700 pages, va raconter 300 ans d'histoire à travers les deux dynasties des deux personnages principaux. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir et moi je dois dire que ça me plaît.
Benoît, vous qui jouez encore au Cowboy et aux Indiens le week-end à vos heures perdues, qu'avez-vous pensé de Barkskins ?
Alors, assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, avec peut-être un petit bémol, c'est que justement, tu disais à l'instant qu'il y avait la question écologique au cœur de l'œuvre d'Annie Proulx. Là, elle n'est pas si présente que ça. C'est-à-dire que on peut mourir avec à cause des Iroquois qui nous balancent effectivement une hache dans le crâne, mais on ne meurt pas, du moins encore dans cette première saison, de la nature. Or, quand on sait ce que ça a été, la dureté pour tous ces colons de venir s'installer dans ces territoires, c'est qu'on pouvait crever simplement parce que la nature venait nous bouffer, littéralement. Donc, j'attends un peu plus de ça. Après, c'est vrai que sur la dimension économique, les enjeux politiques, les différences culturelles, la présence ésotérique du folklore et des légendes qui viennent de la forêt, tout ça est assez bien fichu. Dans un décor somptueux, alors on est dans la juste au nord de la ville de Québec, dans la région de Valcartier, et c'est vraiment cette nature, en revanche là, est très présente, même si on en joue peu au niveau du scénario, elle est très présente du moins à l'image. Un petit regret, mais peut-être que ça va se développer avec le temps. Tu disais que les personnages féminins étaient intéressants. Moi, je trouve qu'ils sont un peu malgré tout schématiques et un peu délaissés de côté, à mon avis, un peu trop de côté par rapport aux hommes de la série. Mais effectivement, le final me rassure parce que je vois que je suis pas dans une mini-série. Je sens que je vais être dans une grande épopée qui va durer, je l'espère, pour que tous ces petits défauts que je note dans cette première saison soient balayés d'un revers de main à partir de la saison 2.
Mais quel engouement, Charlotte Lipinska, partagez-vous cet enthousiasme?
Non, pas totalement. C'est-à-dire que je rejoins mes camarades sur, d'abord l'ampleur de la production. C'est-à-dire que quand même, une série historique au XVIIe siècle, dans des décors somptueux, avec une nature majestueuse, il y a une belle reconstitution, ça nous change un peu, on va dire, de tous les polars à la chaîne qu'on peut se voir à l'année. Et là, il y a une ambition qui est assez réjouissante. Après, moi, j'avoue que ça m'a, malgré la beauté des images, de la lumière, ça m'a un peu ennuyé, quoi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnages. Alors, niveau pilosité, chez les hommes, on est là, il y a un haut degré. Et du coup, j'ai quand même un peu du mal à suivre la trajectoire des uns et des autres, parce que d'abord, il m'a fallu un petit temps pour tous les reconnaître, parce que c'est beaucoup la nuit, ils sont tous barbus avec des chapeaux, et avant de savoir qui est qui, il faut quelques épisodes.
Sauf Monsieur Trépanier.
Oui, absolument, qui est joué par David Tulis, et qui là, pour le coup, a le personnage aussi qui ressemble le moins aux autres, parce que c'est une sorte d'illuminé, un utopiste de la nature, il veut créer cette grande doma, enfin une maison majestueuse, et lui est vraiment en accord avec la nature, donc voilà, il est un peu différent, on va dire, des autres. Mais pour le reste, toute cette galerie de personnage fait que j'ai eu beaucoup de mal à m'approprier les émotions, les affects et les enjeux des uns et des autres. Alors après, les personnages féminins, moi, contrairement à toi, Benoît, je les trouve assez bien décrits. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont fortes, indépendantes ou rêvant de l'être et qui vont essayer de se donner, en tout cas, les moyens de l'être. C'est pas du tout des victimes. Elles se battent. Je les trouve extrêmement bien incarnées et particulièrement avec Marcia Gay Harden qui effectivement fait une tenancière d'auberge qui se retrouve veuve et qui va quand même un peu cornaquer tous ces hommes là, c'est tu regardes mais tu touches pas, bats les pattes vilain barbu. Bon, après, il y a cette...
Moins complexe, peut-être. C'était peut-être moins complexe.
Mais j'ai rien contre eux, ils ne me touchent pas, quoi. Ils ne me touchent pas dans cette série. Je ne suis pas du tout tenue affectivement, alors qu'il y a quand même des trajectoires humaines assez dramatiques. Et c'est vrai que sans la révéler, la fin de cette saison 1 qui se termine sur une espèce de rebondissement, moi, ça m'a gentiment fait lever un sourcil en disant « Ah ouais, ok, attendant la saison 2 ».
Oui, les personnages des femmes sont quand même plutôt bien écrits. Benoît, vous avez moins 30 secondes de réponse.
Ouais, non, moins complexes peut-être. C'est pas qu'ils sont mal écrits, ils sont très intéressants.
Eh ben moi mais, je trouve pas moi, justement. Je les trouve plus complexes.
Moi je trouvais moins. Moi je trouvais plus attendu, on va dire.
Ils sont moins caricaturales que les hommes quand même.
Bah oui.
Je veux dire, elles ont plus de profondeur et justement, ah,
les hommes, c'est des brutasses quand même. À part ce Trépani qui a cette illumination divine et qui a cette utopie merveilleuse par rapport à la nature, c'est quand même que des grosses brutasses.
J'en attendais plus.
Si vous aimez les hommes poilus et les femmes indépendantes, nous vous recommandons Barkskin sur National Geographic. J'ai oublié de dire que cette chaîne était disponible sur le bouquet Disney+. Peter, conversation, titre extrait du 4e album intitulé Super Comédie de ce chanteur québécois, album qui sortira le 25 septembre. Conversation évoque subtilement son passage sur le divan d'un psychothérapeute. Il y interroge les relations amoureuses ainsi que sa propre condition humaine. Une chanson comme vous venez de l'entendre, tout en spleen romantique et indolence mélancolique.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est le moment clé, le moment phare de cette émission, c'est l'effet miroir, bien sûr, de Benoît Lagan pour cette nouvelle saison. L'effet miroir, je vous ai demandé de réfléchir un tout petit peu à la manière dont les séries avaient, pouvaient illustrer peut-être un fait d'actualité, même de façon antécédente, et vous vous êtes replongé dans une des séries qui est votre doudou, hein, votre refuge, on va dire. Vous allez donc nous parler pour la 800e fois de La Petite Maison dans la Prairie.
Bien sûr. Je vous laisse le dire.
Alors, comment est-ce que La Petite Maison dans la Prairie peut illustrer notre actualité?
Eh bien, c'est parce que c'est une série Covid compatible. Oui, puisqu'un épisode diffusé pour la première fois en janvier 77 aux États-Unis a confronté les habitants de Walnut Grove à une dangereuse épidémie de fièvre. Le titre de l'épisode, La Quarantaine. Alors, l'histoire de cet épisode, c'est le 13e de la saison 3, soyons précis. Donc, ça s'appelle La Quarantaine. Moi, j'aurais préféré le titre La Petite Épidémie dans la Prairie. Commence donc par une imprudence. Je vous raconte. Le docteur Baker est envoyé dans un village touché par une épidémie. Les symptômes sont graves, boutons et fièvre pouvant entraîner la mort. Monsieur Edwards accompagne le docteur pour l'aider. Vous savez, Monsieur Edwards, c'est le vieux trappeur, ami à barbe, bretelles et chemise à carreaux de Charlene Gals. Lui, il pense qu'il
est... Ah oui, c'est le maire de la série.
Voilà. Il pense qu'il est immunisé, il faut dire, et qu'il a perdu par le passé ses premières femmes et enfants dans une épidémie ravageuse. Mais voilà que cet imprudent Edwards, qui a un sérieux problème d'alcool, accepte, sans se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique, de se jeter dans le gosier une gorgée d'un petit remontant que lui tend un villageois porteur du virus en lui disant « Allez, juste une goutte, ça ne va pas faire de mal. Avec ça, les boutons disparaissent. Allez, allez. Avec ça, tu es vacciné pour la vie. »
Alors,
manque de bol, si Edwards est bien immunisé, il ne réalise pas qu'il peut transmettre le virus. Et quand, après son retour à Walnut Grove, Alicia, sa fille adoptive, se réveille avec la fièvre, rien ne va plus. Edwards décide alors de se confiner avec sa fille pour éviter la contagion. Heureusement, le principe de précaution à Walnut Grove, on connaît. Et bien avant l'apparition des premiers symptômes de la fille d'Edwards, afin d'éviter toute crise sanitaire dans le village, les autorités, enfin Monsieur Hanson, le fondateur du village, préfère prendre les devants et décide d'un commun accord avec lui-même de confiner les habitants.
Je voudrais un peu de silence dans la classe. Monsieur Hanson a quelque chose de très important à vous dire.
Oui, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Écoutez-moi bien. Il y a actuellement à Helmsville une épidémie de fièvre inquiétante. Alors pour cette raison, j'ai décidé de fermer l'école jusqu'à nouvel ordre. On vous tiendra au courant. Silence, je n'ai pas fini. Vous allez rentrer chez vous bien gentiment et je vous interdis d'aller jouer avec vos camarades. C'est compris?
Et là, ça tire un peu plus la gueule. Alors, parce que l'école à la maison, ce n'est pas la panacée. Même chez les gentils Ingalls, il faut dire que les filles ne supportent pas vraiment d'être enfermées dans leur cabane. Et Laura a beau être une élève consciencieuse, elle rêve de liberté. Mais voilà, pour les rassemblements, même en plein air, il vaut mieux éviter.
Ah, si j'avais pas le temps de devoir, j'irais faire un petit tour au bord de l'eau.
Oui, tu pourrais même aller pêcher.
Elle a été sage aujourd'hui.
Avec cette épidémie qui sévit dans la région, il serait prudent de rester à la maison.
Il n'y aura personne au bord de l'eau.
Il y aura sûrement du monde.
J'en parlerai pas. J'irai pas vers eux, je te le promets.
Alors cet épisode qui avait fait flipper un grand nombre de téléspectateurs à l'époque est intéressant à revoir 43 ans plus tard, car non seulement la série prend acte du confinement obligatoire en cas de pandémie, et surtout de l'importance de garder ses distances pour le bien collectif. D'ailleurs, l'école n'est pas la seule à être fermée, et même à l'église, le dimanche, la cloche ne sonne pas, car si dans La Petite Maison dans la Prairie, on est des pros de la prière, en cas d'épidémie, la sauvegarde des vies humaines passe d'abord et avant tout par le confinement et les gestes barrières. Une morale nette et limpide, Xavier.
Un épisode donc à voir et à revoir pour le bien-être de tous et pour comprendre un petit peu mieux les mesures sanitaires qui nous touchent actuellement. Merci beaucoup, cher Benoît Lagan, Petite Maison dans la Prairie, votre série préférée, une chronique à réécouter évidemment en podcast, mais également cette nuit à 2h du matin, puisque nous sommes rediffusés désormais dans la nuit de samedi à dimanche. Vous êtes toujours dans Une Heure en Série sur France Inter avec Christine Haas, Charlotte Lipinska et Benoît Lagan. Troisième et dernière série à être débattue aujourd'hui, Biohackers, une série allemande de 6 épisodes de 40 minutes diffusée sur Netflix depuis le 20 août. Tout commence dans un train, un homme est pris d'un violent malaise, une jeune fille étudiante en médecine se précipite pour le soigner, mais très vite autour d'elle, tous les passagers tombent à terre, atteints à leur tour de violentes convulsions. Retour en arrière. 2 mois plus tôt, dans l'été indien qui baigne la ville de Fribourg, Mia débarque dans la ville et s'apprête à commencer des études de médecine. Elle tient plus particulièrement à suivre les cours du professeur Lawrence, une spécialiste en génie génétique et biologie de synthèse. Mais ce n'est nullement l'admiration qui pousse Mia à suivre ce cours. De nombreuses années plus tôt, son frère jumeau et ses parents sont morts et elle soupçonne depuis toujours le professeur Lawrence, femme froide, implacable et prête à tout, d'être à l'origine de ces traumatiques disparitions. L'enquête de Mia va la plonger dans les ténèbres des manipulations de l'ADN, du biopiratage, et l'amener à se mesurer à ces scientifiques qui se prennent pour des dieux.
Ça va, toi ?
Ça irait mieux si mes colocs arrêtaient de vouloir me détourner du droit chemin.
Je me suis construit mon propre labo.
Pourquoi il est fluo, Mendel ?
On lui a implanté une protéine fluorescente. T'es étudiante en médecine, mais tu t'es inscrite au cours de bio de Lawrence parce que tu veux faire carrière, comme elle.
Merde, t'arrives à être encore plus mystérieux que moi. Bienvenue dans l'équipe. Il est de notre responsabilité de fabriquer le monde de demain. Et à part ça, tu fais quoi ici ?
Le genre de choses que l'université interdit.
Que c'est-elle au juste de notre projet ?
Rien.
Ouais, t'as un secret.
Voici le docteur Lawrence. Entrepreneuse, visionnaire.
Je vais me la faire.
Une série écrite et mise en scène par Christian Dieter, cinéaste allemand connu au cinéma pour le très oubliable film Vic le Viking. Ne le montrez jamais à vos enfants, ce serait vraiment leur faire insulte. Et pour avoir signé pour Netflix la série Girl Boss. Avec Luna Wedler, Thomas Prenn et Jessica Schwartz qu'on avait vu dans l'adaptation cinématographique du parfum signé Tom Tykwer. Manipulation génétique, bioéthique, Charlotte, bien évidemment, vous êtes le résultat, j'allais dire, en éprouvette de tout cela. Donc vous Absolument. Êtes magnifique, superbe, d'une intelligence démesurée. Je vous souhaite donc la parole en premier.
C'est beaucoup d'honneur, Xavier. Ben, je crois malheureusement que j'ai un peu passé l'âge du public à qui se destine cette série. Je le regrette et je ne suis pas assez manipulée génétiquement.
Vous avez 20 ans à peine.
Voilà, c'est ça. Non, alors on va le dire, c'est quand même une série pour des jeunes, des ados ou des jeunes adultes. Mais alors, moi, j'avoue que j'ai eu un petit plaisir coupable, quand même, à regarder cette série qui est absolument truffée d'invraisemblances, de coïncidences. On ne croit à rien. Mais c'est pas grave. C'est pas grave pourquoi ? D'une part parce que il y a de l'humour, quand même un humour qui nous montre que la série ne se prend pas véritablement au sérieux, notamment avec les colocataires de notre héroïne qui sont tous des petits génies un peu foufou, complètement barrés, assez chelous et je dois dire assez drôles.
Il y en a un qui passe son temps à se mettre des puces à l'intérieur.
Oui,
du corps,
voilà, ou traficoter des graines de bœuf pour faire du shit phosphorescent, c'est plutôt rigolo quand il fume un pétard. Bref, alors après quand même la série, elle soulève des questions absolument passionnantes, mais juste, elle les soulève, quoi. Elle les effleure, on pose un peu les questions ou les thématiques, mais sans jamais prendre le temps de véritablement rentrer dedans, ni de se risquer à les approfondir, ce qui est dommage. Mais avec tout ça, voilà, cet humour, ça va très vite, les épisodes sont courts. Ben, moi, j'ai été assez tenue, je me suis avalé ça en 2 soirées, et avec, pour une fois, une espèce de twist final de dernier épisode de la saison 1, où je me dis, ah, tiens, ben, quand la 2 va sortir, je vais aller voir ce qui se passe.
Il y a des chances qu'elle marche pour l'instant très très bien, voilà. En tout cas en France.
Mais petit plaisir coupable, hein, c'est-à-dire on va se calmer, c'est un truc, c'est très sucré, on ne croit à rien, mais enfin on y va avec plaisir.
Et
quoi.
Comme dirait Benoît Lagan, à qui je vais tendre bien évidemment le micro et rendre la parole, il n'y a pas de plaisir coupable,
il n'y a que du plaisir.
Voilà, c'est votre maxime, donc allez-y, Biohacker sur Netflix.
Alors moi j'ai justement plaisir coupable, bah, pareil, mais donc pas de plaisir coupable, un vrai plaisir à suivre cette série, malgré toutes ces incohérences, effectivement, je valide tout ce que Charlotte, tu viens de dire. Et j'ai bien aimé le fait que la façon dont est filmée la ville de Fribourg, je trouve que elle est très photogénique cette ville et ils l'utilisent vraiment bien. Tout ce qui concerne le monde des fêtes étudiantes aussi, je trouve que c'est vraiment bien avec ces plantes OGM complètement folkloriques, fluorescentes, etc. Je trouve ça vachement bien fait et trouvé. Ensuite, la série démarre sur les chapeaux de roue, elle ne cesse jamais. Le début de la série happe complètement. Ensuite, on va de rebondissement en rebondissement, tous les uns plus ou moins improbables. Le personnage de la méchante est vraiment trop méchante pour qu'on y croie.
On est d'accord,
c'est un peu limite.
Oui, oui, c'est un peu limite.
Mais moi, j'ai trouvé... Alors, il y a, vous citiez Vic le Viking, Xavier. Il y a même... on place du produit, hein, la figurine de Vic le Viking qui passe par là. On est dans un univers univers très pop, très très dessin animé, très cartoon aussi. Il y a un côté Scooby Gang dans la bande aussi. Donc tout ça m'a plutôt amusé. J'ai regardé avec plaisir. Même problématique sur les questions éthiques autour des OGM, tout ça. Tout ça n'apparaît pas, la bioéthique, tout ça. Enfin, on n'en parle pas. Mais Christian Deter dit que ce sera en saison 2. Donc, acte, on verra bien en saison 2. En attendant, on peut regarder juste pour s'amuser et ça suffit amplement.
Christine Haas, vous qui avez inventé la bœuf, fluorescente, c'est de votre époque, bien évidemment.
Les plantes luminescentes, j'en fume encore.
Voilà. Éteignez-la d'ailleurs, parce que ça nous fait un peu mal aux yeux, là, pour l'instant, s'il vous plaît.
Non, mais c'est vrai que là, on est dans une narration qui, au départ, est assez codifiée, qu'on connaît bien. Folie, génie se côtoient. En deux siècles, on est passé de Frankenstein au biohacking. Donc, on va découvrir, effectivement, la biologie, l'enseignement du corps humain, les sciences de l'environnement, etc. Donc, toute la partie scientifique est parfaitement développée. On est souvent dans un labo, un amphi, devant un ordinateur. L'image de la méchante, effectivement, qui se prend pour Dieu, un peu magnétique, un peu inquiétante. Bon, elle n'est pas très crédible parce que ses motifs semblent assez basiques, hein, finalement. Mais on comprend assez bien la quête de l'héroïne, hein, le traumatisme qu'elle a subi, même si je la trouve un peu robotisée. Hein. C'est quand même une gamine qui a l'air d'avoir 12 ans. Et puis, elle balance des trucs comme j'ai eu l'idée de transférer directement l'ARN dans l'enzyme pour remplacer efficacement la séquence du génome.
C'est un génie qui vous balance
tout ça. Mais quand même, quand elle se retrouve face à son prof, qui est censé être son ennemi mortel, on a plutôt l'impression que c'est face à une collègue avec qui elle aurait des points de mésentente, quoi. Tout ça n'est pas très, très crédible. Quant à sa relation amoureuse spontanée avec l'étudiant le moins charismatique du groupe, elle est assez peu crédible aussi. Et finalement, moi, comme Charlotte et mon camarade, je m'intéresse essentiellement aux personnages secondaires. Moi, j'adore Chen Lu, la chinoise, qui crée une plante piano et qui infuse un goût de viande à des champignons qu'elle propose en salade. Moi, je trouve ça irrésistible. Et évidemment, elle va tomber amoureuse de Hu Lei, le rouquin biohacker de l'extrême qui utilise son propre organisme pour se simplifier la vie. Moi, c'est mon rêve. Hein. Il s'implante une puce de carte bancaire dans la main ou alors des implants sous les doigts qui pourraient éventuellement servir de clé pour ouvrir la porte. Donc tout ça, c'est regrettable qu'ils ne soient pas un peu plus approfondis, ces personnages, qu'ils n'aient pas un peu plus, qu'ils soient servis que comme des interludes comiques. Parce que en fait, c'est à eux qu'on s'intéresse véritablement et on aimerait en savoir plus.
Bah, peut-être dans la deuxième saison. C'était donc Christine Haas, dite Super Jamie, hein, la fille bio-ionique de cette émission qui s'exprimait à propos de biohackers sur Netflix. Je suis un peu surpris, vous soyez presque enthousiaste sur cette série.
Mais voilà. Il y a un côté petit alias, en fait.
Qui est bref, mais qui est oubliable néanmoins. We'll be right back. moins de désannoncer ce grand classique de la pop des années presque 80, Supertramp, The Logical Song, sorti extrait donc de l'album Breakfast in America, sorti en mars 1979, et vendu à l'époque des dizaines de millions d'exemplaires, voilà. Absolument. Avec The Logical Song, le groupe britannique s'attaque au système scolaire. Je les cite, ils m'ont envoyé au loin pour m'enseigner comment être raisonnable, logique, responsable et avoir un esprit pratique. Ils m'ont fait voir un monde dans lequel je pourrais être fiable, clinique, intellectuel, cynique. Spéciale dédicace donc à tous les écoliers, lycéens et étudiants qui ont amorcé leur rentrée scolaire cette semaine.
Et Xavier, vous faisiez du air saxo pendant le morceau.
Ben oui, évidemment, parce que c'est la grande époque du saxo. Pas une chanson sans son saxo, bien évidemment.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure du plateau télé, au moins pour deux d'entre vous. On va réserver la petite surprise, la nouveauté de cette saison pour la fin de ce plateau télé. Donc on arrête Léon, hein, c'est bien, mais non, mais pas tant que ça, mais vous comprenez le personnage. Non, là, c'est carrément du conseil, assumé, affirmé, vous aimez, vous adorez et vous nous recommandez. On commence avec Charlotte, on parlait d'une série danoise tout à l'heure avec Le Tueur de l'Ombre. Eh bien, nous continuons avec également...
Absolument. Alors là, c'est carrément le gros coup de cœur. Une série danoise de 2007 qui n'a pas pris une ride. Bah, et pour cause, hein, son héroïne Sarah Lund, elle voit pas beaucoup le soleil. Elle va passer trois saisons sous la pluie, dans la nuit, pour résoudre des énigmes. C'est évidemment The Killing.
Parlez un peu des pulls aussi, hein, femme. Oui.
Ah, bah, évidemment, cette série a imposé le pull en laine qui gratte comme la tenue réglementaire de rigueur pour résoudre des énigmes. Non, The Killing, vraiment, très sérieusement, c'est la série qui a imposé les pays nordiques et particulièrement le Danemark, un peu comme les maîtres du renouveau, du polar et du thriller, comme d'une certaine manière l'Israël aussi, un peu plus tard, s'est imposé dans d'autres domaines. Alors, chaque saison se concentre sur un meurtre. Une saison égale une enquête, et avec une ampleur de narration complètement dingue, puisque chaque épisode, c'est un jour d'enquête. Donc on est quasiment en temps réel. Mmh. Et si vous vous souvenez bien, la première saison fait 20 épisodes. Donc c'est vous dire quand même à quel point les scénaristes ont réussi à donner une ampleur à l'enquête de Sarah Lund, qui a vraiment peu d'équivalent, hein, toujours aujourd'hui. The Killing a été beaucoup copié mais jamais égalé, parce que à travers chaque enquête, les scénaristes ont réussi à nous parler de la morale, des valeurs de la société danoise et des démocraties occidentales de manière plus générale. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une vision politique à chaque saison qui est absolument époustouflante. La série est visible sur arte.tv jusqu'en mars, donc vous avez le temps. Et il faut vraiment voir The Killing, les trois saisons. Ça a été un gros succès à l'époque, ça a même été adapté aux États-Unis quelques années plus tard, en 2011. C'était d'ailleurs pas trop mal réussi. Mais enfin bon, ici on aime l'original bien évidemment. Voilà, The Killing, saison 1, 2, 3 à dévorer sur arte.tv.
Excellent choix. Votre plateau télé, chère Christine, c'est une série sur Netflix, Intimidation, d'après Harlan Coben.
Et oui, parce que sachez-le, Harlan Coben a signé un deal avec Netflix pour l'adaptation de 14 de ses romans.
Absolument.
Donc pour les fans, c'est une bonne nouvelle. Les autres, passez votre chemin. Donc après Safe, il y a 2 ans, le romancier américain est de retour avec la série Intimidation, adaptée du roman The Stranger, qui met en scène un homme à qui tout semble réussir, jusqu'à ce qu'une étrangère survienne et lui révèle le sombre secret de sa femme. Donc tandis qu'il cherche à comprendre, sa femme disparaît, la police intervient et l'étrangère, enragée, poursuit son travail de révélation destructrice. Alors, dans cette série, c'est vrai que la tension monte en crescendo à travers 2 enquêtes menées en parallèle, celle du mari qui fait appel à un ancien flic dont il est proche, celle de la police, où la détective principale se retrouve impliquée personnellement dans l'affaire. Tous les ingrédients des romans de Harlan Coben sont là. La disparition mystérieuse, l'agression inexpliquée, les fantômes du passé, en passant
la
par...
La forêt, les bois,
l'adultère,
comme d'habitude.
Le harcèlement, le meurtre, hein, bref. L'engrenage va devenir terrifiant, multiplié de nombreuses sous-intrigues qui se déploient façon puzzle. Alors, on va avoir des parents et leurs sombres secrets, des adolescents confrontés, une fois de plus, aux dommages collatéraux de la drogue, des petits arrangements de la police avec la réalité. Rien de nouveau, en fait. Sauf que, C'est très efficace, c'est très bien interprété. Les 8 épisodes de 42 minutes s'engloutissent très vite. Le suspense est savamment entretenu quant aux motivations de l'étrangère qui révèle ses secrets les uns après les autres et dont l'identité ne va apparaître que très tardivement. De la même manière, les liens qui unissent les différents personnages, les différentes intrigues vont se révéler très progressivement et le dénouement parfaitement glauque n'est pas non plus une déception. Donc c'est pas révolutionnaire, mais malgré quelques rebondissements qui sont un petit peu tirés par les cheveux, faut quand même le dire, c'est un thriller typiquement britannique, de bonne facture. Et puis les amateurs du genre comme moi passeront un bon moment.
Et je le partage complètement. Intimidation sur Netflix. Donc, nouvelle chronique pour Benoît Lagan, le service après-vente. C'est-à-dire que vous avez été regardé une deuxième saison, une dernière saison, ça va être le cas aujourd'hui pour la série dont vous allez nous parler. Et vous nous dites donc, en bon service après-vente, est-ce que ça vaut le coup de continuer, d'être... On reste sur la bonne première impression d'une saison 1 réussie, puis on évite la saison 2, ou est-ce qu'au contraire, on se dit, bah, soit ils ont réussi à exploiter toutes les qualités de la série, ou est-ce qu'au contraire, bah, cette saison dernière est un peu trop longue, un peu tirant un peu la ligne. Benoît.
Engrenage, on ne pouvait pas passer dans cette émission sur le retour d'Engrenage, dernière saison, saison 8. 15 ans que l'on suit les enquêtes de Berthaud, Gilou et puis de l'avocate Joséphine Carlson. Donc ils reviennent pour un dernier tour à partir de lundi sur Canal. Donc saison 8, très attendue cette saison parce que, et surtout quand on sait que c'est la dernière, parce que en tant que téléspectateurs, tous ces personnages nous ont beaucoup accompagnés pendant des années. Le principe d'Engrenage, on le rappelle, c'est des enquêtes policières et l'engrenage, le travail de la police avec la justice. Du coup, on a une enquête vue tant du côté de la police que du côté de la justice. La série a marqué un tournant dans l'histoire de la série en France, des séries policières, parce que tout d'un coup, il y avait eu des tentatives de séries plus réalistes. Là, ça a acté quelque chose d'extrêmement bien réussi. Il avait fallu du temps, une saison, deux saisons, pour qu'Engrenage trouve son ton. Et puis vraiment, à partir de la saison 3, la série était vraiment grandiose, notamment grâce à Anne Landois, qui avait dirigé la série pendant plusieurs saisons et qui avait fait des personnages féminins de cette série, des personnages forts. Marine Francou a la lourde tâche depuis la saison 7 de poursuivre cette série et de la terminer. Alors elle y arrive à créer ses adieux, les adieux des personnages, avec douceur. Et ça, on peut dire bravo à Marine Francou de nous permettre de quitter ces personnages avec tendresse. Du coup, l'enquête de cette dernière saison patine un petit peu. Malgré tout, vu qu'Engrenage est toujours très réussi, on peut y retrouver des choses. Ah non, dans un Engrenage saison 6-7, on n'aurait pas eu tel type de dialogue, ou il n'y aurait pas eu tel ou tel type de personnage. Voilà, peut-être que cette série est à voir pour tous ceux qui ont suivi Engrenage. Pour ceux qui n'ont jamais vu Engrenage, allez-y, et c'est la dernière occasion de rentrer dans cet univers. Avec un nouveau personnage qui apparaît dans cette saison, le personnage de Lucie Bourdieu, interprétée par Clara Bonnet, qui joue une nouvelle juge, une jeune juge, qui vient remplacer le juge Roban, qu'on a déjà perdu en fin de saison 7, qui réussit à moitié son coup, mais qui au moins rajeunit un petit peu la série.
Voilà, donc c'était Benoît qui se livrait au service après-vente concernant la saison 8 et ultime d'Engrenage sur Canal+. Une heure en série, c'est fini. Merci à vous trois, Benoît, Christine et Charlotte, d'y avoir participé. Merci à vous toutes et vous tous de l'avoir écouté. Nous vous avons recommandé aujourd'hui ou pas Le Tueur de l'Ombre sur Arte, Barkskin sur National Geographic et Biohacker sur Netflix. La semaine prochaine, Grand Écart, car nous évoquerons No Man's Land sur Arte et Grand Hôtel sur TFA. Si vous nous faites la gentillesse de nous écouter la semaine prochaine, vous comprendrez plus aisément pourquoi je parle de Grand Écart. Rendez-vous demain comme chaque dimanche avec Jérôme Garcin et son Masque et la Plume qui sera consacré cette fois au 7e art. Une heure en série, c'est donc fini. Une émission à réécouter en podcast ou à 2h du matin cette nuit, puisque nous sommes désormais rediffusés dans la nuit de samedi à dimanche. Il y a un site internet où vous pouvez retrouver le programme, le menu, les conseils avisés de tous nos participants. Il y a la possibilité de nous envoyer des courriers, laudateurs ou au contraire critiques. Vous êtes très attentifs, donc merci pour cela. L'émission a été réalisée comme toujours par Marianick Rimbaud, la programmation musicale assurée par Muriel Pérez. J'ai eu le plaisir de préparer cette émission avec Amel Kaldi. Et ce soir à La Technique, un duo de charme et de choc, Sofiane Aktib et Jérémy Guillon.